Au moment où nous allons ouvrir la Bible au livre du Lévitique, c'est dans le livre du Lévitique que j'ai choisi le texte qui nourrira notre méditation ce matin, c'est le chapitre 25. Un chapitre 25 qu'il faudrait lire dans son intégralité. Je vais en choisir quelques passages particulièrement significatifs, tout en vous disant par honnêteté qu'il y a quelques passages que je ne lirai pas, qui sont problématiques, mais qui suffiraient à eux-mêmes à nourrir plusieurs prédications, plusieurs études bibliques, notamment sur le rapport entre indigènes et étrangers. C'est donc dans le livre du Lévitique, au chapitre 25, que je vous lis quelques versets en vous rappelant la situation de départ. « L'Éternel parla à Moïse sur le mont Sinaï. Tu compteras 7 sabbats d'années, donc 7 ans. 7 fois 7 années, et la durée de ces 7 sabbats d'années fera 49 ans. » Jusque-là, tout va bien. « Le 7e mois, le 10 du mois, tu feras retentir les sons éclatants du cor, mieux connu sous le nom de shofar. Le jour des expiations, mieux connu sous le jour de Kippour, le Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour des expiations, vous sonnerez du shofar dans tout votre pays. Et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez dans le pays l'affranchissement de tous les habitants. Ce sera pour vous le jubilé. Chacun de vous retournera dans sa propriété, chacun de vous retournera dans son clan. La 50e année sera pour vous le jubilé. Vous ne sèmerez pas, vous ne moissonnerez pas ce que les champs produiront d'eux-mêmes, et vous ne vendangerez pas la vigne non taillée. Car c'est le jubilé. Vous le regarderez comme saint. Vous mangerez le produit des champs. Dans cette année de jubilé, chacun de vous retournera dans sa propriété. Si vous faites une vente à votre compatriote ou si vous achetez quelque chose de la main de votre compatriote, qu'aucun de vous ne fasse tort à son frère. Tu achèteras ton compatriote en comptant les années depuis le jubilé, et il te vendra en comptant les années de récolte. Plus il y aura d'années, plus tu élèveras le prix d'achat, et moins il y aura d'années, plus tu réduiras le prix d'achat, car c'est le nombre des récoltes qu'il te vend. Aucun de vous n'exploitera son compatriote, et tu craindras ton Dieu, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Mettez ces prescriptions en pratique, observez mes ordonnances, et mettez-les en pratique, et vous habiterez en sécurité dans le pays. La terre ne se vendra pas à titre définitif, car le pays est à moi, car vous êtes chez moi, comme immigrants et comme résidents temporaires. Dans tout le pays dont vous aurez la possession, vous établirez le droit de rachat pour la terre. Si ton frère devient pauvre et vend une portion de sa propriété, celui qui a le devoir de rachat, son plus proche parent, viendra et rachètera ce qu'a vendu son frère. Si un homme n'a personne qui ait le devoir de rachat et qu'il se procure lui-même de quoi faire son rachat, il comptera les années depuis la vente, restituera le surplus à l'acquéreur et retournera dans sa propriété. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui vous ai fait sortir du pays d'Égypte pour vous donner le pays de Canaan, afin que je sois votre Dieu. Si ton frère devient pauvre près de toi et qu'il se vende à toi, tu ne lui imposeras pas le travail d'un esclave. Il sera chez toi comme un salarié, comme un résident temporaire. Il sera à ton service jusqu'à l'année de jubilé. Il sortira alors de chez toi, lui et ses fils avec lui, et il retournera dans son clan, dans la propriété de ses pères. Car ce sont mes serviteurs que j'ai fait sortir du pays d'Égypte. Ils ne seront pas vendus comme on vend des esclaves. Tu ne domineras pas sur lui avec rigueur, mais tu craindras ton Dieu. » Frères et sœurs, je vous invite à ouvrir ce cantique louange et prière au cantique 87. Dans l'ambiance de Noël, chantons ce cantique de Zacharie, aux strophes 1, 2 et 6. Levons-nous pour chanter Dieu. Et 5. Que notre cœur s'ouvre à la parole, à cette parole qui suscite et ressuscite la vie, à la parole qui crée les conditions d'un monde infiniment vivable. Chers frères et sœurs, nombreux sont ceux en France, et j'imagine parmi vous, qui veulent en finir au plus vite avec cette année 2015. Année pénible, année de toutes les horreurs, à l'exception de quelques événements heureux et même particulièrement heureux, mais qui ne suffisent pas manifestement à sauver le reste. Toutefois, vous le savez bien, il ne suffira pas de changer le numéro de l'année pour que la vie change du tout au tout. Il ne suffira donc pas d'atteindre héroïquement le 1er janvier pour être sauvé des malheurs de 2015. Cela, le peuple hébreu l'avait bien compris, qui inscrivit dans son code lévitique le principe de l'année jubilaire, dont Lévitique 25 nous donne les prescriptions. Alors, pour toute personne qui a un jour dans sa vie entendu Lévitique 25 et les prescriptions qui sont faites, la question se pose: est-ce que Lévitique 25 et son année jubilaire ont jamais été appliquées? À vrai dire, l'année jubilaire est conçue comme étant tout simplement inapplicable, inapplicable à la lettre. En effet, l'année jubilaire est la 50e année d'un cycle de 7 séries de 7 ans. Et comme vous l'avez entendu, tous les 7 ans était prévu une année sabbatique, qui consistait à faire profiter le peuple des fruits du pays, des fruits qu'il recevait sans avoir agi pour les obtenir. Aucun travail n'était donc effectué, c'était une véritable année sabbatique avant l'heure. Eh bien, l'année du jubilé, 50e année, vient donc après une année sabbatique, ce qui signifie deux années consécutives sans avoir ensemencé, sans avoir taillé, sans avoir effectué le moindre travail qui permet d'obtenir la subsistance nécessaire. L'année suivante serait alors une année qui succéderait à deux années blanches. Ce serait une année de famine assurée. Le jubilé, en tant que tel, n'est pas applicable à la lettre. Ce qui signifie simplement que ce texte du Lévitique n'est pas un texte législatif, que par exemple un parti religieux pourrait utiliser comme plan d'action s'il était au pouvoir. L'intérêt de ce texte est qu'il nous aide à penser notre action, notre propre plan d'action, notre propre éthique, notre programme si nous sommes en situation de responsabilité. Pour le dire un peu vite, avec une distinction traditionnelle, ce texte biblique n'est pas une réglementation, mais un outil de régulation. Ce n'est pas une loi qui doit être appliquée telle qu'elle, mais un ensemble d'éléments qui nous aident à penser notre intervention dans le champ sociopolitique. Car Lévitique 25 est dans le code sacerdotal, l'évangile social par excellence, ce texte qui nous dit à quel point la foi chrétienne n'est pas déconnectée des réalités du quotidien, à quel point la foi nous aide à penser notre vie quotidienne, notre rapport aux autres, notre rapport au monde, notre rapport à la société. Quand je dis la foi chrétienne, c'est parce que nous nous l'approprions, mais bien entendu, la foi juive est celle qui porte au départ ce code social. Régulation, disais-je. Appelez cela la main invisible à la manière d'Adam Smith si vous le souhaitez. Ce dont il s'agit, c'est de l'intervention de personnes dotées d'une conscience morale capable de faire fonctionner la société à laquelle elles appartiennent. Ce sont des personnes qui ont une prise de conscience que le monde en l'état n'est pas satisfaisant, qu'il ne permet pas de vivre convenablement et qui vont donc intervenir localement, personnellement, pour que les choses changent, que la vie s'améliore. Alors, en cette période que beaucoup s'accordent à déclarer fin de cycle, une fin de cycle qui dure depuis quelques années déjà, ou fin d'une époque, sous-entendu, ça ne peut plus durer, néanmoins, ça continue à durer, eh bien, l'année jubilaire est peut-être ce qu'il nous faut, justement, la fin d'une période. Bien évidemment, un sabbat de sabbat d'année est une figure métaphorique pour dire la fin d'un cycle, la fin d'une période. La prise de conscience qu'il faut que ça change effectivement, que l'histoire s'ouvre sur autre chose. Eh bien, ce que nous dit le Lévitique ici, c'est qu'il faut savoir solder les périodes. Il faut savoir finir, il faut savoir mettre un terme pour pouvoir passer à autre chose. Parce que autre chose n'arrive pas tout seul. Et c'est ce que fait cette année jubilaire. Et elle le fait d'abord en sonnant du shofar, de la corne de bélier. Moi, je dirais que la seule chose que nous aurions à faire, c'est de sonner du shofar. Alors, bien sûr, vous allez me dire que c'est anecdotique et que c'est dérisoire au regard des problèmes que nous avons à affronter. Dites aux membres du gouvernement que la solution à nos problèmes est une sonnerie de corne de bélier, et la seule raison pour laquelle vous ne serez pas interné d'office, c'est qu'il n'y a plus de place en hôpital psychiatrique. Et pourtant, quand on s'intéresse de près à ce que signifie cette sonnerie de chauffard, on ne peut qu'être saisi par sa pertinence. Lorsque le chauffard retentit, c'est pour le nouvel an, Rosh Hashanah, ou pour le Yom Kippour, le jour du grand pardon, le jour des expiations. Et il y a trois sortes de sonneries qui seront jouées successivement. La première est longue et sans coupure, et je laisse le soin à notre organiste de nous l'offrir. Elle est nommée Tekiya, ce qui signifie être fixé, fiché en terre. Elle dit la continuité, elle dit la constance, le conservatisme, ce qui ne varie pas, ce qui ne bouge pas, ce qui est définitif, comme une propriété qui pourrait être définitive. C'est le monde laissé en l'état. Plus rien ne bouge. La deuxième sonnerie est une succession de trois sons dont la durée de chaque est un tiers de la précédente, un tiers de la tequilla. Et je laisse à nouveau le soin à notre organiste de nous l'offrir. Cette sonnerie a pour nom Shevarim, ce qui signifie la brisure. C'est une rupture du son continu en trois fragments. Ces ruptures, vous l'entendez, introduisent des espaces entre chaque son, entre chaque note, un espace. C'est un espace de liberté. C'est un espace qui montre qu'il y a de la différence que nous pouvons habiter. Le sein maternel n'est plus le prolongement naturel de notre bouche. Il y a eu sevrage. Il y a sevrage dans tous les domaines avec ces trois fragments qui apportent leur brisure. La vie spirituelle, d'ailleurs, consiste en une succession de brisures. Souvenez-vous que Jésus dit ne pas être venu pour apporter la paix, mais l'épée, disant qu'il est venu couper chaque cordon ombilical qui nous maintient dans un état de dépendance. Dépendance d'un parent, dépendance d'une institution, dépendance d'un maître à penser. La troisième sonnerie est une succession de 9 sons courts, qui représentent donc 1/9 du son long, 1/9 de la tequilla. Et là encore, notre organiste nous l'offre. Cette sonnerie est nommée Teroua, ce qui signifie ébranlement, mise en mouvement. À l'opposé de la tequilla qui évoque volontiers l'électroencéphalogramme plat, Teroua exprime la vie. Ça pulse, ça frétille, c'est vivace, ça bouge, ça balance. Cette troisième sonnerie est une brisure des brisures précédentes. Manière de dire que la première brisure n'est pas suffisante, car nous pourrions nous en contenter. Nous pourrions figer les premières brisures en l'état, les conserver, devenir conservateur de la brisure initiale. De même que l'Église réformée ne l'est pas pour toujours, mais qu'elle est toujours à réformer, eh bien la brisure est toujours à reprendre, toujours à accomplir de nouveau. Le sevrage est toujours à reprendre. Cela pour éviter que la brisure se fige dans le geste inaugural. Beau, certes, mais insuffisant pour provoquer le mouvement de la vie. Il ne faudrait pas que la brisure, il ne faudrait pas que la réforme devienne un état. La brisure, le mouvement, doit être incessamment en mouvement. C'est la vie qui avance, qui bouge, qui se métamorphose, qui se renouvelle. Sonner du chauffard, c'est opérer une rupture, seul acte capable de nous faire passer à autre chose, seul acte capable de nous détacher de l'horreur, du malheur ou de l'ennui. Et ce texte du Lévitique nous rappelle que c'est à l'occasion du rite de Yom Kippour que le chauffard retentit. Et c'est bien compréhensible. Comment se détacher du mal? Comment rompre avec le malheur si nous ne mettons pas le mal et le malheur à distance? Et une bonne façon de le faire, c'est la confession du péché. Dans le Yom Kippour, comme dans notre culte dominical, la confession du péché permet de prendre conscience de fautes, de situations qui ne sont pas forcément évidentes, mais qu'en nommant, en verbalisant, nous mettons à distance, nous éloignons de nous, et du coup, nous regagnons en liberté. Si nous ne mettons pas un peu d'espace entre nous et ce qui nous fait mal, comment pourrions-nous passer à autre chose? Nous serions toujours les victimes de ce malheur. Et le pardon, c'est cela. Le pardon, c'est de lâcher les coupables, de lâcher la culpabilité. Et en lâchant les coupables, nous cessons de faire de l'agresseur celui qui nous agresse. Et du coup, nous cessons de nous maintenir dans l'état de victime. Yom Kippour est non seulement salutaire pour celui qui est pardonné, mais pour celui qui pardonne. Cela permet de passer à autre chose. Yom Kippour permet de passer du son linéaire, qui pose une absolue continuité dans le temps, qui dit que chacun est égal à lui-même, à ce fait biblique et anthropologique qui est que nous ne sommes pas ce qu'on a fait de nous. Nous ne sommes pas seulement ce qu'on dit de nous. Nous ne sommes pas simplement ce que nous montrons de nous-mêmes. Nous ne sommes pas réductibles à ce que nous disons. La rupture oppose le fait que nous pouvons être autrement que ce que nous donnons à voir, à entendre, à ressentir. Les espaces créés par ces brisures, par ces ruptures, forment un espace où nous avons la liberté d'introduire de la nouveauté. Comme lorsque notre organiste joue, notamment sur un orgue où les silences sont structurants, où l'entre-deux notes est ce qui permet à l'auditeur de pouvoir apporter sa contribution en donnant du sens, en créant le lien, en créant le passage, en figurant le chemin qui mène d'une note à l'autre. Eh bien, le chauffard rappelle cette vérité théologique, qu'il est si difficile d'entendre dans une société qui, en voulant neutraliser toute menace, en vient à tout neutraliser, à tout figer, à tout fixer. Les espaces créés par ces brisures, par ces ruptures, forment un espace où nous avons la liberté d'être ce que nous pouvons devenir. Alors, ces ruptures se traduisent de plusieurs manières concrètes dans la suite du texte. Je le rappelle, ce texte n'a pas de valeur contractuelle. La liste des situations n'est donc pas exhaustive. Néanmoins, elle nous indique trois lieux qui permettent d'être interrogés, trois lieux que nous pouvons repenser. À nous de remplir les blancs créés par les ruptures provoquées par le chauffard pour penser à nouveau frais notre situation. Néanmoins, voici trois domaines majeurs que Lévitique nous aide à réinvestir. Il y a d'abord le travail, qui est rendu inutile pendant toute cette année sabbatique. Et cela permet, je crois, de remettre le travail à sa juste place. Il n'est pas considéré comme le but de la vie. Considérer qu'une année, voire deux, puisse être sabbatique, c'est évidemment relativiser la place du travail dans une existence. Le travail n'est pas sacré. Il n'est donc pas question de sacrifier sur l'autel du travail. Peut-être est-ce difficile à entendre en période de fort chômage. Et certainement est-il utile d'entendre cette exigence du sabbat comme le refus de faire du travail un marqueur du salut, un marqueur identitaire. Pour le dire théologiquement, le travail, lorsqu'il est compris dans sa dimension économique, ce qui nous permet de gagner de l'argent, n'a pas de valeur ultime. Ce n'est pas divin. Et cela permet d'éviter de considérer ceux qui n'ont pas d'activité rémunérée comme des sous-humains, justement. Le travail ne disant rien de notre valeur personnelle, le travail ne dit rien non plus de ceux qui n'ont pas de travail. Par ailleurs, le travail n'ayant pas de caractère absolu, il serait bon de reconsidérer la valeur symbolique des métiers, des fonctions, des professions. À hiérarchiser la valeur des métiers sur des critères financiers, par exemple, on en vient non seulement à pervertir la notion du travail, effort, responsabilité, prise d'initiative, souci de qualité, cessent d'être des critères pris en compte par des jeunes qui sont surtout à la recherche des revenus. Et on en vient trop souvent à figer les personnes dans des métiers déterminés. Et il n'y a rien de pire en période de chômage que de vouloir à tout prix tel poste et ce poste uniquement, et de considérer qu'on n'est bon que pour cela. L'année sabbatique permet de prendre conscience que le travail n'est pas le tout de notre vie et que nous ne sommes pas non plus condamnés à un métier particulier. Le sabbat, finalement, introduit un peu de souplesse. Certains diraient de la flexibilité, mais la flexibilité est un concept assez ambigu de nos jours. Considérez que nous ne sommes pas prédéterminés à un travail en particulier et qu'il y a donc pour nous la possibilité de saisir des opportunités qui s'ouvrent auxquelles on n'aurait pas pensé jusque-là. Dans une certaine mesure, l'année jubilaire redistribue des cartes. C'est quasiment un New Deal, là aussi, avant l'heure. Vient ensuite la terre, deuxième domaine sur lequel Lévitique 25 s'interroge. La terre avec ses titres de propriété. Vous avez entendu que l'Éternel rappelle que c'est lui le propriétaire de la terre, c'était au verset 23. Eh bien, cela relativise notre prétention à nous arroger le sol. Il y a eu de nombreuses campagnes de promotion de l'accès à la propriété ces dernières années, au point qu'on pouvait se demander s'il n'était pas honteux de ne pas être propriétaire. L'idée de propriété est assez contraire à la lettre ainsi qu'à l'esprit des textes bibliques. Il faut bien prendre conscience que les textes bibliques ne nous reconnaissent pas comme propriétaires de quoi que ce soit sur la terre, mais comme responsables. Et c'est au nom de cette responsabilité, lorsqu'elle est assumée par nos bons soins, que nous avons quelques droits, et non l'inverse. Nous pourrions dire que nous avons un droit d'usufruit, mais que l'Éternel est le propriétaire réel. Dire que l'Éternel est le propriétaire, c'est dire que nous ne le sommes pas. C'est dire aussi que faire un bon usage de la terre, c'est le faire en tenant compte des autres personnes qui n'ont pas moins de droits que nous en la matière. Tout ce code du Lévitique, tout cet évangile social, coordonne la transcendance verticale à une transcendance horizontale. Jamais l'autre n'est exclu de notre horizon. Il est toujours ramené aux considérations que nous devons porter dans le rapport que nous entretenons avec la terre. Alors, dans une période particulièrement tendue sur la question du logement, ce ne sont certainement pas de nouvelles lois ou de nouvelles aides de l'État qui arrangeront le marché et permettront, par exemple, à des personnes retraitées aux revenus modestes de pouvoir habiter Paris. Ce ne sont ni les lois ni les aides qui découlent des lois, parce que les lois sont toujours en retard sur la vie. Les lois ne font que suivre le mouvement. Et tout dépend donc du mouvement que nous imprimons. C'est donc un changement de rapport à la propriété qui sera en mesure de changer cette situation. Et le Lévitique, à nouveau, insiste sur notre responsabilité individuelle en la matière. Il n'est pas question d'attendre que les choses s'arrangent de l'extérieur. Il s'agit de prendre notre part de responsabilité pour que la situation évolue. Et c'est en se considérant tous et toutes comme immigrants, résidents temporaires, que nous serons peut-être moins crispés sur les biens immobiliers et que du coup, le prix de l'immobilier se modifiera en conséquence. Vous me direz, cela est vraiment très utopique, notamment à Paris. Utopique comme l'est Lévitique 25. À vrai dire, il ne dépend que de nous que les choses changent ou reste en l'état. Il ne dépend que de nous de nous intéresser à la première sonnerie du chauffard ou aller jusqu'à la troisième. Le troisième point de fixation qui est évoqué dans ce texte concerne les personnes. En rappelant que l'Éternel est libérateur, qu'il a fait sortir son peuple de l'Égypte, c'est-à-dire de la maison de servitude, ce texte rappelle la vocation de l'homme à la liberté. L'année jubilaire consiste à libérer les personnes soumises, réduites à toute forme d'esclavage, c'est-à-dire les personnes contenues à des limites qui les empêchent de faire valoir leurs talents. Des personnes qui finalement sont réduites à n'être que des exécutants. Tout le monde est pour ce genre de liberté. Plus personne n'est pour l'esclavagisme. Mais la privation de liberté, vous savez, est quelque chose d'assez sournois. Elle se dit rarement. On ne se vante pas d'être esclavagiste. Elle ne se dit ni chez les exploitants viticoles, qui pourtant, de nos jours encore, confisquent les passeports des saisonniers, qui seront ensuite honnis dans des propos on ne peut plus xénophobes, manière de les humilier convenablement pour qu'ensuite ils ne se plaignent pas, pour qu'ensuite ils ne portent pas plainte. D'ailleurs, bien souvent, ceux qui sont utilisés, pour ne pas dire exploités dans ces exploitations viticoles précisément, ne sont pas spécialement munis de papiers en bonne et due forme. Mais cela n'empêche pas les employeurs, qu'il s'agisse du vin dans le sud de la France, qu'il s'agisse du bâtiment ou des travaux publics ailleurs, de faire largement appel à ces personnes, quitte à ne pas les payer, parce qu'elles savent très bien que de toute façon elles ne pourront pas porter plainte. Eh bien, ces personnes, ce sont des personnes qui, il faut bien le savoir, vivent la trouille au ventre. Ce sont des personnes qui rasent les murs. Ce sont des personnes qui vivent dans la peur d'être interpellées dans un contrôle d'identité et qui pourtant font marcher notre économie et qui pourtant servent les intérêts de ceux qui se targuent de vouloir une France pure de toute étrangeté et de toute magouille. Mais l'esclavagisme, voyez-vous, est tel qu'il y a aussi toutes ces personnes qui sont réduites à rien dans le secret des alcôves, dans les maisons. Il y a l'esclavagisme domestique. Nous entendions encore récemment la question des femmes battues. Il y a aussi quelques situations qui concernent la gente masculine. Peu importe en fait l'exhaustivité, il ne s'agit pas de faire le catalogue de toutes les horreurs. Il s'agit d'entendre que l'esclavagisme est souvent plus sournois que ce que nous imaginons, et qu'il prend même parfois des allures morales. Il prend des allures morales quand il s'agit en fait de harcèlement ou de chantage sur des personnes qui sont pieds et mains liés par la nécessité de gagner leur pain. Il y a parfois une moralité qui est mise en avant pour restreindre les libertés. Eh bien, en proposant la mobilité des personnes, des familles, ce texte biblique offre une manière de rompre avec les comportements mafieux bien installés. Le fait de pouvoir envoyer chacun dans sa propriété, dans son clan, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, c'est une manière de pouvoir l'exfiltrer de situations qui sont devenues insupportables. Année après année, de mauvaises pratiques peuvent s'installer dans des familles, dans des situations institutionnelles, qui poursuivent pourtant des buts très honorables. Et c'est alors que des actes de régulation sont particulièrement nécessaires pour couper court à cela. Et voyez-vous, Lévitique 25, à mon avis, ne propose pas une réglementation particulière, une législation qui réglerait les problèmes tels quels. Lévitique 25 nous rappelle que ce sont des changements, des ruptures véritables, effectuées par les individus, par nous, personnellement, qui seront à même de modifier les situations. Ce que Lévitique essaie de nous faire comprendre, c'est qu'il s'agit de remettre en jeu les éléments constitutifs de la société que nous voulons construire. On pourrait dire remettre en jeu les idéaux qui nous mobilisent, des éléments que nous perdons de vue à mesure que s'empilent les problèmes et que s'empilent aussi les mesures prises pour tenter d'y remédier. Il ne faudrait pas considérer que la Bible offre un modèle unique de société. Il ne faudrait pas considérer que nous pouvons tirer un programme politique unique des textes bibliques. Un modèle qui s'imposerait à la lecture de n'importe quel texte. Il n'y a pas de programme politique type dans la Bible. Il y a une exigence de penser le politique, de penser le social. Il y a en revanche des appels récurrents à relativiser notre prétention à sacraliser telle situation, à la figer dans le marbre et à nous déclarer définitivement propriétaires de ce dont nous jouissons actuellement. Les textes bibliques qui seront portés à leur accomplissement à travers la figure du Christ sont là pour relativiser. Ce sont des instances de relativisation. Il y a aussi cette impérieuse nécessité de garantir la liberté des individus qui, au fil des mois, au fil des années, peuvent voir leurs responsabilités confisquées par des états de fait qui, évidemment, pour des questions morales, pour des questions de sécurité bien légitimes, ont nécessité des réactions urgentes menées par des spécialistes qui confisquent alors le pouvoir petit à petit. Eh bien, si nous voulons en finir avec la version pénible de 2015, si nous voulons aussi éviter les révolutions sanglantes qui finissent toujours par arriver quand il n'y a pas de réforme profonde des comportements, eh bien, c'est peut-être dérisoire et anecdotique. Mais peut-être que la meilleure des choses que nous ayons à faire, c'est symboliquement, de façon métaphorique, c'est de faire sonner le chauffard dans tout le pays, de procéder à des ruptures, à des mises en mouvement, et de proclamer une année de faveur, une année en faveur de la liberté. Amen.